Voilà, je vous invite à ouvrir votre Bible dans la première épître de Pierre. Et nous arrivons, j'allais dire enfin à la fin, mais nous arrivons à la fin de cette épître, première épître de Pierre. Une épître qui a été écrite à des chrétiens qui, pour les préparer à la souffrance, qui souffrent, en tout cas pour les préparer à la souffrance. Et je ne sais pas ce que vous auriez fait si vous aviez à encourager des personnes qui passent par des difficultés, par des souffrances, de quelque ordre qu'elles soient, mais surtout des souffrances qui sont liées au fait qu'elles suivent le Seigneur et qu'elles sont des personnes chrétiennes qui veulent vivre pour le Seigneur. C'est le cas des lecteurs de Pierre ici. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il, juste pour faire un petit résumé, qu'il leur fait voir quelle est leur position en Christ. Quand il commence au premier chapitre, vous avez été élus par la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit. C'est pas afin que vous deveniez obéissants et que vous participiez à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. C'est ce qu'il dit. Et puis après, il dit, voilà que Dieu est béni, on va louer Dieu parce qu'il nous a donné une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Et qu'il dit en plus que vous avez un héritage dans les lieux célestes et cela vous est gardé par la foi en Jésus-Christ. Il y a un salut qui est prêt à être révélé dans les derniers temps. Et puis il dit, mais c'est vrai qu'il faut que dans le temps présent, vous passiez par quelques souffrances, parce que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, d'accord, produit, il dit, la louange et la gloire de Dieu pour vous. Et donc il montre ces choses et il dit, voilà, vous avez une espérance qui est dans les cieux, vous souffrez, mais que cela fasse votre joie, parce que le salut dans lequel vous croyez est quelque chose d'extraordinaire. Et au chapitre 1, je ne sais pas si vous vous rappelez, il va leur montrer la beauté de l'évangile. Il va même dire que les prophètes qui ont prophétisé concernant la grâce qui vous était réservée, ils ont cherché, ils ont voulu comprendre, sonder les époques et les temps marqués par le Saint-Esprit, qui serait marqué par le Saint-Esprit. Même les anges, il a dit, désiraient jeter leur regard dans ces choses. Et puis il dit, mais il leur fut révélé que c'est pour vous que cela était. Et puis il leur parle du fait d'être sauvé, d'être régénéré par la parole vivante et permanente de Dieu. Mais il insiste et commence avec une série d'exhortations. Je crois que quelqu'un comptait qu'il y a à peu près 35 impératifs dans la lettre, dans laquelle il leur dit comment il faut vivre présentement, dans le temps présent, en attendant la manifestation du jour de Jésus-Christ. Et plusieurs fois, il parle quand Jésus-Christ apparaîtra. Il dit ça plusieurs fois aussi dans cette épître. On avait vu la dernière fois qu'il parlait même de la gloire éternelle à laquelle Dieu a appelé ses enfants. Mais entre ce que Dieu a fait dès avant la fondation du monde et cette gloire éternelle vers laquelle il veut conduire ses enfants, il y a le passage temporel, pour un peu de temps, vous souffrez. Qu'est-ce qu'on fait dans la souffrance? Alors c'est là qu'il donne une série d'exhortations à supporter la souffrance, à savoir que c'est à cela qu'on est appelé, que l'on doit suivre Christ. Ses propres souffrances sont un exemple pour nos souffrances aussi. Il leur dit comment il faut se conduire quand on est dans le couple, les difficultés que l'on peut avoir. Il dit comment on doit se conduire face aux autorités, comment on doit se soumettre, comment on doit honorer le roi, ceux qui peuvent nous faire souffrir. À un moment donné, il parle vers le chapitre 3 de la bonne conscience que l'on doit avoir en toutes choses, afin que même ceux qui calomnient puissent remarquer les bonnes œuvres. Il parle au chapitre 4 aussi du fait de ne pas voir la souffrance comme quelque chose d'étrange et de ne pas considérer comme quelque chose d'extraordinaire. mais de le prendre comme une grâce de Dieu. Il dit, c'est une grâce de Dieu si vous souffrez pour ce qui est bien, pour la cause de l'Évangile. Et puis aussi, au chapitre 4, il interpelle sur le fait que la fin de toute chose est proche et que l'on doit être sobre et sage pour vaquer à la prière. Il avait dit cela. Il avait parlé encore de l'amour que l'on doit avoir les uns pour les autres. Et le fait que l'amour même couvre une multitude de péchés. Il dit, ce qui doit être évident, c'est pas le péché des autres, c'est votre amour pour les autres. Et ça, c'est une chose qu'il souligne plusieurs fois dans cet épître. Il parle de l'hospitalité que l'on doit exercer sans murmure, du fait de mettre aussi ses dons au service des autres, afin que toute chose, dit-il au vers chapitre 4, en toute chose, Jésus-Christ que Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire, la puissance au siècle des siècles. Et puis au chapitre 5, il parle de quelques exhortations qu'il donne aux anciens, qu'il recommande de faire paître le troupeau de Dieu avec, non pas avec comme par contrainte, mais le faire volontairement selon Dieu. Il dit de le faire non pour gagner quelques gains sordides, mais par dévouement. Il dit non comme dominant sur le troupeau, mais comme étant les modèles, le conduire en étant des modèles. Et puis, il dit vers la fin de ce chapitre 5 que nous voyons, il dit, faites attention parce que dans toutes ces choses, vous devez savoir que le diable, il rôde. Hein, et que la souffrance est une chose, mais que le diable peut utiliser la souffrance comme un piège aussi pour nous faire tomber, pour nous faire chuter. Et qu'on doit lui résister avec une foi ferme, en se souvenant que partout dans le monde, les autres croyants souffrent et sont aussi sous le feu de l'attaque de l'ennemi. Et le verset que nous avions considéré la dernière fois, on va le relire au chapitre 5, verset 10, jusqu'à la fin. Il dit, « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira et vous fortifiera, vous rendra inébranlable à lui. » Et là, c'est un accent doxologique, hein, il rend grâce, il rend gloire à Dieu. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Et puis, il ajoute quelques mots, on pourrait dire les mots de la fin. Et imaginez qu'après une telle lettre, vous ayez à mettre les mots de la fin utiles pour enseigner, pour convaincre et pour corriger, afin que l'homme de Dieu soit parfait, eh bien, cette écriture-là est utile aussi pour nous ce matin. Verset 12, il dit ceci. « C'est par Sylvain qui est à mes yeux un fidèle frère que je vous écris ce peu de mots afin pour vous exhorter et vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. » Alors, c'est peut-être écrit différemment dans votre traduction, mais c'est le même sens. Verset 13, il dit, « L'Église des élus qui est à Babylone vous salue ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser d'affection. Que la paix soit avec vous, soit avec vous tous. » Voilà, ce sont là les derniers mots par lesquels l'apôtre Pierre, conclut sa lettre sur tout ce qu'il aurait pu dire après avoir écrit cette lettre. Il termine avec quelques mots qui sont, on pourrait dire, presque personnels. Les conseils, une dernière exhortation, un dernier rappel, un dernier témoignage qu'il donne à ces chrétiens à qui il vient d'écrire. Et la première chose qu'il dit, c'est demeurer dans la grâce coûte que coûte. Demeurer dans la grâce coûte que coûte. Il dit, c'est par Sylvain qui est à mes yeux, un frère fidèle que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter. On a là le but pour lequel il écrit, hein. Il le dit lui-même, et c'est toujours intéressant quand un auteur donne, comme dans l'évangile de Jean, le but pour lequel il écrit les choses. Il dit, j'ai écrit ce peu de mots pour vous exhorter. Il a fait beaucoup d'exhortations. Et pour attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la vérité. Alors d'autres traductions disent, quand il dit la grâce de Dieu dans laquelle vous êtes, ça veut dire dans laquelle vous tenez bon, et ça pourrait être traduit, la grâce dans laquelle vous êtes, tenez bon là-dedans. Une exhortation qu'il donne, qu'il a donnée tout au long de la lettre. Et il a parlé beaucoup, on l'a dit la dernière fois, beaucoup de la grâce de Dieu, et même que la souffrance pour la cause de l'évangile devait être vue comme une grâce devant Dieu. Mais quand on souffre, on peut se demander, les chrétiens pourraient se demander, est-ce que je suis dans le vrai chemin? Est-ce que c'est vraiment ça l'évangile? Est-ce que c'est vraiment ça, suivre Dieu? Tout ce qu'on nous a dit, oui, c'est vrai que le Seigneur, il est grand, il a fait, mais on ne voit que de la souffrance. Et Pierre dit, mais cette grâce à laquelle vous êtes attachés est la véritable grâce. Et le but qu'il se fixe, c'est de les exhorter, c'est de les exhorter en cela. Et en terminant, il veut que ça reste présent dans leur esprit. Vous connaissez la vraie grâce de Dieu. Ce que Paul a prêché. Ce qu'on a prêché concernant la grâce, ce que vous avez entendu, tout l'évangile que vous avez entendu, ça c'est la vérité. Même si vous souffrez, et vous devez rester attaché à cela. Même si la souffrance sévit, le message que vous avez entendu, c'est le message de la véritable grâce de Dieu. L'épître de Jude, il y avait des gens qui frelataient la grâce de Dieu. Ils prenaient la grâce, la tordaient, et puis... tordait le sens de l'Écriture. C'est ce que l'Épître de Jude dit. Mais ici, Pierre dit qu'il y a une vraie grâce, une véritable grâce. C'est celle qui vous a été enseignée, qui est la grâce dont il a parlé, dont les prophètes cherchaient un petit peu à en savoir plus, la grâce que Christ a manifestée, que Dieu a manifestée en Jésus-Christ, par le sacrifice de Jésus-Christ, la grâce que Dieu leur accorde pour supporter les souffrances, pour se soumettre aux autorités, même si c'est difficile, pour vivre dans un foyer, même si c'est difficile avec le mari ou avec le conjoint. Cette grâce-là, c'est la véritable grâce de Dieu. Et vous faites bien de tenir ferme en elle. Qu'il écrit ces choses aussi en peu de mots. Un peu de mots. Je ne sais pas si vous savez combien de temps il faut pour lire la première épître de Pierre. Il faut à peu près 15 minutes. Parfois, on trouve... si on disait, lisez toute la première épître de Pierre ce matin dans votre queue, on dit, oh, c'est beaucoup quand même, pas lire tout. Mais ça prend que 15 minutes. D'accord ? Donc, c'est pas longtemps que ça prend. Mais bon, mais en même temps, c'est une épître qui est longue par ce qu'il dit ici, hein. Néanmoins, Pierre dit que c'est peu de mots. Je vous écris en peu de mots. C'est une petite lettre, d'accord, qu'il écrit. Et 15 minutes dans un monde où on est habitué au zapping, 15 minutes de lecture, c'est très difficile. Je sais pas si vous lisez, si vous êtes grand lecteur, mais c'est difficile dans, certainement pour notre monde ici. Mais Pierre considère ça comme une petite lettre. Savez-vous combien de temps il faut pour lire le chapitre 13 de l'Épître aux Hébreux? Pour lire toute la lettre aux Hébreux, les 13 chapitres. Eh bien, il faut à peu près 45 minutes. 45 minutes. Et écoutez ce que dit ici l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il dit au verset 22, au chapitre 13, « Je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement. » Et d'autres traductions disent que je vous ai écrit en peu de mots. Et 15 minutes, Pierre dit que c'est peu de mots. 45 minutes pour lire, rien que pour lire. On ne parle pas d'étudier, de faire des études là-dedans, mais rien que pour lire. Et l'auteur dit que c'est... peu de mots. Donc il est évident que ni Pierre ni l'auteur de l'Épître aux Hébreux ne font référence ici à la longueur de la lettre, mais à tout ce qu'ils auraient pu dire concernant l'évangile et ce qu'ils ont choisi de dire. Un peu comme l'apôtre Jean quand il dit que Jésus a fait encore beaucoup de miracles. Il dit ça. Et si on devait les écrire, il dit que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres. Mais ceci a été écrit afin que. Et donc il parle des miracles, des signes qu'il a sélectionnés dans sa lettre. Il dit, ceci a été écrit afin que. Et c'est ce que Pierre souligne ici. Il dit, c'est peu de mots, mais c'est peu de mots choisis pour vous encourager à demeurer dans la grâce de Dieu, coûte que coûte. Alors, quand on dit ça, je vous écris un peu de mots, il est en train de dire, considérez attentivement ces choses. On ne s'est pas étalé dans beaucoup de choses, on a écrit précisément sur des choses. On aurait pu faire beaucoup plus, mais Saint-Esprit guide à écrire comme cela. Alors, considérez attentivement toutes ces choses que je vous ai partagées et les exhortations qui sont données dans cette lettre. Il y a eu de nombreuses vérités, on a vu, il y a eu de nombreuses exhortations. Elle dit, vous devez considérer chacune de ces choses. Et la manière de demeurer dans la grâce, c'est pas simplement de lire ces choses, mais c'est de les mettre en pratique, de faire l'effort de comprendre, de recevoir les vérités théologiques qu'il enseigne, mais aussi de mettre en pratique les différentes exhortations qu'il a données ici. Ça, c'est la première chose, je pense, une chose qu'on pourrait voir dans ces derniers mots, ces salutations finales de Pierre. Une autre chose encore qui m'a frappé, c'est de pouvoir témoigner de la fidélité des autres. Pouvoir témoigner de la fidélité des autres. Il dit, c'est par Sylvain qui est à mes yeux un frère fidèle que je vous écris ce peu de mots. Une lettre comme celle-ci qui parle de la souffrance, qui cherche à encourager les chrétiens qui souffrent, qui sont peut-être sur le point d'abandonner. C'est l'époque de Néron, c'est pas une époque favorable aux chrétiens. On pourrait se poser la question, quel est l'intérêt de terminer la lettre en disant c'est par Sylvain que je vous écris? Hein? Ça, il n'aurait pas su, ça aurait changé quelque chose ou pas? Néanmoins, Pierre le dit. Et il arrive à la fin de cette lettre dense, avec une trentaine d'exhortations, et il cite Sylvain. Il souligne que c'est Sylvain, c'est par Sylvain qu'il écrit. Alors, ça laisse supposer soit que. On pourrait dire que c'est Sylvain qui a été le secrétaire, qui a été la plume de Pierre, hein, et Pierre a dicté ces choses, ou ça peut dire aussi qu'il est le porteur, qu'il va être le porteur de cette lettre aux différentes personnes, églises, à qui elle est destinée. Et parfois, vous savez, les écrivains, même les apôtres, avaient des gens qui écrivaient aussi pour eux. L'apôtre Paul, quand vous lisez l'épître aux Romains, par exemple, hein, Romains a été écrit par. Pas Titus, pardon, Tertius, hein, l'apôtre Paul, dans la lettre aux Romains au chapitre 16, on trouve ceci. Il dit, je vous salue dans le Seigneur, c'est pas moi Paul, c'est moi Tertius qui ai écrit cette lettre. Et c'est la lettre de Paul aux Romains. Mais c'est Tertius qui l'a écrit. D'accord? Il l'a fait certainement sous la pleine et entière direction de l'apôtre Paul. Donc de temps en temps, on le sait, hein, si ce n'était pas dit, on ne le saurait pas, mais Dieu permet qu'on le sache ici. Ici, c'est Tertius lui-même qui écrit, qui dit c'est moi, qui écrit. Dans la première épître de Pierre que nous lisons, c'est Pierre qui dit, c'est par Sylvain que je vous ai écrit ce peu de mots. Alors on ne sait pas exactement si Sylvain les a vraiment écrites et c'est ce que Pierre souligne, ou si simplement qu'il est le porteur, ça peut être aussi les deux. En tout cas, ce qu'on peut relever, c'est pas tant le fait de ce qu'il a fait qu'il souligne, mais de ça, ce qu'il souligne, c'est surtout sa fidélité. Il dit, c'est par Sylvain qui est à mes yeux un fidèle frère que je vous écris ces choses. Donc il rend témoignage à la fidélité de ceux qui travaillent avec lui, de ses collaborateurs et de ses équipiers. Et Il veut le faire à dessein. Qui était Sylvain? Sylvain est aussi cité par l'apôtre Paul. Donc il a été à la fois coéquipier de Paul et à la fois de Pierre. Il est cité, on ne va pas lire les passages, mais il est cité dans 2 Corinthiens 1, 19, 1 Thessaloniciens 1, 2 Thessaloniciens aussi, me semble-t-il. Mais beaucoup, et la plupart, en tout cas, les commentateurs soulignent que Sylvain, c'est en fait celui qui est appelé dans les actes Silas. Voilà, c'est le même qui est appelé dans les actes Silas. Et Silas est choisi, je ne sais pas si vous vous rappelez, il est choisi par Paul. Et avec plutôt Paul et Barnabas pour amener la lettre dans le livre des Actes au chapitre 15 quand il y a eu le problème avec la circoncision où il y avait des Juifs qui étaient venus à Antioche qui disaient, voilà, vous ne pouvez être sauvés si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse. Et puis il y a eu toute une rencontre des apôtres qui sont montés à Jérusalem, ils ont réfléchi sur la question, ils ont rédigé une lettre et puis ils ont envoyé la lettre à l'église d'Antioche. Alors Barnabas et Paul ont été chargés d'amener cette lettre et ils ont choisi avec eux Judas et Silas, qui a été donc quelque part aussi associé à cela. Et ils étaient décrits comme des hommes considérés. Des hommes considérés. Alors, on lit beaucoup de choses hein, sur Silas. Il part en mission aussi avec Paul lors du second voyage missionnaire. C'est lui qui se retrouve en prison avec Paul, vous vous rappelez, à Philippe. Et qui chante au milieu de la nuit des cantiques. Hein. Paul et Silas chantaient des cantiques et les prisonniers les entendaient. Et vous vous rappelez ce qui s'est passé, le tremblement de terre, le geôlier qui est sur le point de se donner la mort. Et puis Paul qui dit, ne fais rien, nous sommes tous là. Et cet homme vient, il se jette aux pieds de Paul et Silas et puis dit, que dois-je faire? Et puis la Bible dit bien, Paul et Silas lui répondirent, quoi au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Donc il a été à l'origine, hein, peut-être dire, aussi, comme Paul, pour conduire ce geôlier à la foi. Et on lit même dans les actes que Silas était aussi un prophète. Hein, était aussi un prophète. Alors il a prêché même l'évangile aussi dans l'église de Corinthe, puisque l'apôtre Paul le rappelle en 2 Corinthiens, je crois, 1, versets 19 et 20. Les années passent, on ne sait plus ce qu'il fait et ce que l'on apprend ici, c'est dans l'épître de Pierre, c'est qu'il est un fidèle frère. Fidèle avec Paul, il l'a été, et il est aussi fidèle avec Pierre dans le service qu'il lui rend. Il est fidèle en jouant à chaque fois un rôle de second violon, on pourrait dire. Il n'était pas Paul, il n'était pas Pierre, mais il a servi aux côtés d'eux. On ne sait jamais ce qu'il a dit, sauf quand il est dit Paul et Silas ont dit quoi au Seigneur Jésus, hein, mais on n'a pas les paroles directes de Silas. Ici, c'est un serviteur dont la Bible ne nous rapporte pas les paroles, parce qu'après tout, ce qui était important ici, c'est pas de savoir tant ce qu'il a dit que son caractère, que sa fidélité. Et c'est un homme. On ne sait pas quelles étaient ses compétences. Peut-être qu'il était plus doué que Pierre. Pierre était marin-pêcheur. D'accord? Peut-être que lui, il avait fait plus d'études, on ne sait pas. Peut-être pas. Peut-être qu'il en avait fait moins. Peut-être qu'il connaissait moins que Pierre. Peut-être qu'il connaissait. La Bible ne le dit pas. Ce qu'il souligne, c'est que c'est un fidèle frère. Et Pierre le souligne. Il dit, il est à mes yeux un fidèle frère. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement que c'est un fidèle pour les autres. Moi, l'apôtre Pierre, je souligne le fait que ce frère est un fidèle frère. Et donc, il reconnaît personnellement que par l'expérience qu'il a vécue avec ce frère, c'est un fidèle frère à ses yeux. Et il montre, à la fin de cette lettre, hein, qu'il est souvent important de reconnaître et même de témoigner, parfois publiquement, de la fidélité, de l'appréciation que l'on a de ceux qui travaillent avec nous. On n'est pas tout seul dans le travail que l'on fait. Et il faut exprimer cela. Même si c'est pour dire qu'il a écrit, même si c'est pour dire qu'il va porter la lettre. Et l'apôtre Paul a fait ça dans Colossiens. Parfois, il a cité tout un tas de noms de personnes qu'on n'a jamais vues ailleurs, juste dans l'épître aux Colossiens, je crois bien, pour dire que ces hommes ont travaillé, ces personnes ont travaillé avec lui. Parce que c'est important de rendre témoignage à la fidélité des autres. Alors c'est un encouragement, je pense, qu'il laisse à ses chrétiens aussi en disant, voilà, il est important de rendre témoignage les uns aux autres, dire l'appréciation que l'on a les uns pour les autres, exprimer merci pour le travail effectué, mais aussi pouvoir le dire à d'autres. C'est-à-dire quand on parle de l'un, on exprime à l'autre, on exprime la reconnaissance pour la fidélité de ce frère, de cette sœur à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est important aux yeux de Pierre lorsqu'il termine cette lettre. Il le fait lui-même et je pense qu'il le laisse aussi intentionnellement comme témoignage à ses croyants et puis aussi à nous. Troisième chose que je voudrais souligner dans cette salutation finale, c'est de manifester l'affection dans l'Église de Dieu. Manifester l'affection dans l'Église de Dieu. Manifester l'affection pour les autres, Église aussi, mais aussi dans l'Église même de Dieu. Regardez le verset 13, il dit « L'Église des élus qui est à Babylone vous salue ainsi que Marc, mon fils, par un baiser d'affection. » Alors, dans le texte original, il n'y a pas le mot « Église ». Si vous avez une autre traduction, vous avez peut-être « celle qui est l'élu comme nous », quelque chose comme ça. Et ça a poussé pas mal de commentateurs à dire que l'élu dont Pierre parle, c'est peut-être sa femme, et Marc, c'est peut-être son vrai fils biologique. Il y a des commentateurs qui le disent, qui soutiennent. Donc, et parce que c'est une lettre dans laquelle... Pourquoi est-ce qu'on aurait parlé de l'Église et puis de Marc? Marc, il est dans l'Église, pourquoi faire la distinction? C'est une position claire. Mais la plupart pensent que ici, c'est plus vraiment, probablement plutôt l'Église dont Pierre parle quand il dit « elle ». Parce qu'il dit pas, le mot « Église » n'est pas dans le texte original. Donc il dit « celle qui est l'élu ». Et donc on pense qu'il parle de l'Église, et particulièrement de l'Église de Rome, parce que Babylone, c'était un mot code pour dire Rome, souvent à cette époque. Et donc c'est pour ça que dans nos Bibles, nous avons peut-être l'Église de Babylone qui est, l'Église des élus qui est à Babylone, vous salue. Je pense que c'est relativement juste ça. Et donc, ce que Pierre souligne ici, c'est que l'église dans laquelle il est, probablement, il est à Rome, on peut le supposer, et il vit dans ces circonstances difficiles. Certains pensent qu'il ne voulait pas forcément citer et mettre en danger les chrétiens qui sont là-bas, parce que c'était une épreuve de grande persécution, c'était une période, pardon, de grande persécution pour l'église ici. Et donc, il décrit un peu cette église de Rome, bon, l'important n'est pas là, l'important est de dire qu'elle vous salue. L'église de Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Et on peut penser que Marc, c'est son fils spirituel, c'est Jean-Marc, vous vous rappelez, on en avait parlé un mardi soir. Jean-Marc, qui était le cousin de Barnabas, qui un temps était parti avec Paul et Barnabas en mission, et puis finalement, il n'avait pas été fiable, et puis Paul n'avait pas voulu le reprendre. Et à cause de cela, eh bien, il y a eu une dissension entre Paul et Barnabas au point où ils se sont séparés dans le ministère. Paul est parti avec Silas et Barnabas est parti avec Marc. D'accord ? Et Marc, c'est celui qui est l'auteur aussi du troisième évangile, l'évangile de Marc. Mais quand on lit l'Écriture, on voit qu'en Timothée, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il fait ? Il demande que Marc viennent auprès de lui parce que Marc lui est utile. Donc on voit qu'il y a eu de la réconciliation dans tout cela. Et ici, on le retrouve avec Pierre et on pense qu'il était certainement son père spirituel. Donc quand il dit Marc, mon fils, peut-être que c'est le sens de fils spirituel qui est utilisé ici. Mais en tout cas, ce que Pierre dit ici, c'est que l'Église qui est à Babylone, peut-être l'église de Rome, on pourrait dire comme ça, vous salue. Et il montre qu'il y a, les chrétiens ne doivent pas se considérer comme des personnes qui sont isolées dans leur petite communauté, mais doivent penser aussi aux autres enfants de Dieu et avoir même dans le cœur, l'affection, pouvoir prier pour eux, pouvoir penser à eux. Souvent, quand on va quelque part dans notre église, on dit, bon, quand on est prédicateur, on peut dire, je vous apporte les salutations de l'église d'eux. Hein. Mais des fois, bon, toutes les personnes dans l'église n'ont pas dit, saluez cette église là-bas quand vous irez là-bas. Donc, ça devient presque une formule, parfois, malheureusement. Mais ici, quand on lit les Écritures, on voit que c'était quelque chose qui n'était pas simplement une formule. L'apôtre Paul le dit souvent, on ne va pas lire tous les passages qu'il cite, mais il parle dans Romains, par exemple, il dit, toutes les églises de Christ vous saluent. Dans 1 Corinthiens 16, il dit, les églises d'Asie vous saluent. L'église qui est dans la maison de Priscille et Aquilas vous salue. Hein? Et donc, il est en train d'écrire une épître, et certainement, il a de la part de plusieurs personnes, des gens qui lui disent, mais transmets notre salutation à cette église. Nous les aimons, nous prions pour eux. Donc c'est ça que ça veut dire. Et donc il dit, quand il dit qu'elle vous salue, il ne dit pas simplement que voilà, ils vous disent bonjour, mais vous êtes dans leur cœur, vous êtes dans leur pensée, vous êtes dans leur prière. Vous êtes accueillis, et le mot saluer, ça peut être traduit aussi par accueilli, vous êtes accueillis dans leur cœur. Et donc les églises ne doivent pas être toutes seules et penser à elles toutes seules. Et l'apôtre Pierre dit à ces chrétiens qui souffrent, vous n'êtes pas seuls dans la souffrance, il y a d'autres églises, particulièrement l'église qui est à Babylone, qui vous salue, qui prie pour vous, qui pense à vous. Et vous aussi, certainement, hein, ça veut dire vous devez faire la même chose à l'égard des autres. Quand vous pensez à d'autres églises, pensez à prier pour elles. Même si on ne connaît pas tous les besoins, mais pensez, c'est l'église du Seigneur, et pensez à prier pour les croyants qui se situent dans ces églises, surtout quand on entend par exemple les endroits où ils souffrent, où il y a des guerres, où il y a de la persécution, et on connaît beaucoup de pays comme cela, eh bien, nous devons avoir toujours cette pensée en tant qu'église de prier et de saluer ainsi les églises. Donc, je continue, et ce que Pierre dit aussi là-dedans, deuxième aspect de cela, donc il y a l'aspect église envers église, on pourrait dire, mais il y a l'aspect de l'affection qui doit être manifestée entre les chrétiens d'une même église. Hein. Et il dit, saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Et le mot exact, c'est par un baiser d'amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Paul dit, il faut faire piou, 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 pas tout le monde toute la journée. Pierre dit ça, voilà, vous êtes entré dans l'église, vous devez faire les rangs, et puis vous devez aller faire la bise à tous ceux que vous trouvez. Je me souviens quand j'étais un peu plus jeune, aux Antilles, il fait très chaud. Hein. Il fait très chaud. Et puis il y a les dames dans l'église, et là, il faut être poli, il faut dire bonjour, il faut faire la bise à tout le monde, surtout quand on est un enfant. Et il y avait une dame, elle avait la sueur sur le visage. Et elle me dit, viens, tu me fais la bise. Et j'ai résisté, je voulais pas y aller. Elle dit, allez, embrasse-moi. Et je l'ai fait par obéissance, parce que mes parents, bon, là, ça ne passait pas si je n'obéissais pas. Hein. Mais bon, hein, ce n'est pas toujours évident, n'est-ce pas? Et donc, ce n'est pas ce que l'apôtre Pierre dit certainement ici. Il ne dit pas que c'est une obligation de mettre sa joue dans la joue de l'autre, etc. Mais quand on lit les Écritures, on voit néanmoins qu'à cette époque, quand même, les croyants se saluaient par un saint baiser. Et bon, il y avait, semble-t-il, un côté avec les dames, un côté avec les hommes, et il y avait un signe d'affection de s'embrasser. Je ne sais pas exactement comment ça se passait, mais c'était quelque chose de physique, de visible, et qui exprimait le fait qu'ils appartenaient à Christ. Et l'apôtre Paul dit cela plusieurs fois. Saluez-vous par un saint baiser. Il dit ça en Romains chapitre 16, verset 16. Il dit ça en 1 Corinthiens 16, verset 20. Il dit ça en 1 Corinthiens 13, verset 12. Et en 1 Thessaloniciens 5, 26, il dit, saluez tous les frères par un saint baiser. Et c'est un qui est donné ici. Alors, qu'est-ce que cela souligne? Qu'est-ce que cela veut dire? À nous qui avons l'habitude de dire bonjour, ça va? Oui, ça va. Et puis après, on a fini. On s'est déjà dépassé. Ça veut dire que il faut, et je vous dis que la traduction qu'il dit, c'est saluez-vous par un baiser d'amour. Il faut que dans l'église, c'est ce qu'il dit, il y ait quelque chose qui marque que l'on a une véritable affection les uns pour les autres. C'est une chose de dire « je t'aime », c'est une autre chose de saluer fraternellement avec, dans notre pays, une bonne poignée de main, regardant dans les yeux, pouvant dire peut-être même un mot, comme Pierre peut le dire, hein, qui montre que le cœur est plein d'amour. Alors parfois, ça se traduit par une embrassade chaude et chaleureuse. Ce n'est pas seulement le geste qui est quelque chose, mais c'est ce que le geste représente, ce qu'il dit. Et on peut faire un geste sans qu'il n'y ait de réalité derrière. Judas, il a donné un baiser à Jésus. Vous vous rappelez cela? Et d'ailleurs, quand quelqu'un dit, ouais, si jamais quelqu'un est fâché avec vous et puis vous lui faites la bise, il vous dit c'est un baiser de Judas. D'accord? Pour dire que ça, ce n'est pas un baiser qui traduit une réalité d'affection du cœur. Mais souvenez-vous aussi que Jésus a reproché à Simon, quand il est rentré chez lui, vous savez, lorsque Marie cette femme a versé. Elle a pleuré, elle a essuyé les pieds de Jésus, elle a baisé les pieds de Jésus dans Luc chapitre 7. Jésus reproche à Simon son manque d'amour en lui disant « Je suis rentré chez toi, tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds et tu ne m'as pas donné un baiser qui pourrait témoigner que tu as de l'affection. » Donc quelque part, il souligne que l'absence de baiser était une marque de non-affection. Et en même temps, il dit, on peut avoir le signe sans avoir la réalité quand il parle de Judas. Alors que dit Pierre ici dans le fond? Pierre dit que vous devez être animés d'un profond amour les uns pour les autres. Un amour tellement fort qu'il se transmet, qu'il se manifeste par un geste d'affection. Une forte poignée de main pour dire, pas juste bonjour, comment ça va, mais pour exprimer qu'en tant qu'enfant de Dieu, on fait partie du même corps et que l'on s'aime et que je t'aime. C'est ça qu'il veut souligner ici. Et je me suis posé la question de toutes les exhortations que Pierre a données, les 35 apparemment exhortations qu'il a données dans cette lettre. Il aurait pu en choisir une autre à la fin de sa lettre. La seule qu'il choisisse, comme dernière exhortation, parce qu'il dit « Saluez-vous par un saint baiser ». C'est un signe qui témoigne de l'amour. Parce que l'amour sincère pour les frères, l'amour sans hypocrisie, c'est vraiment le fruit de la nouvelle vie. C'est vraiment le fruit que la grâce, qu'on est attaché vraiment à la grâce de Dieu. C'est vraiment le signe que, eh bien, on appartient au Seigneur. Et la Bible dit ailleurs, 1 Jean 3, 14, 15 dit, « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. » Et il dit que, et ailleurs, hein, il dit, « Celui qui croit au Fils de Dieu, il est passé de la mort à la vie » pour dire qu'il est vivant spirituellement. Il est un véritable chrétien. Et ici, il dit, « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas, il demeure dans la mort. Et quiconque hait son frère, du verbe haïr, hein, est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. 1 Jean 3, versets 14 et 15. Donc on peut dire très clairement dans ce passage que l'amour sincère pour les frères est un véritable test de la réalité du salut. Et l'apôtre Pierre le souligne deux fois. Regardez dans 1 Pierre chapitre 1 et au verset 22. Il dit, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, dans quel but, dit-il, pour avoir un amour fraternel, sincère ? Alors, puisque vos âmes ont été purifiées, afin que vous ayez un amour fraternel sincère pour les autres, alors la recommandation, c'est quoi? C'est aimez-vous ardemment, jusqu'à l'extrême. Et le mot ardent, c'est ici extrême. Ça veut dire des extrémistes de l'amour. Il y en a qui sont extrémistes de la haine. il dit d'être des extrémistes de l'amour. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Et puis au chapitre 4, je crois que c'est au chapitre 4, hein, si mes souvenirs sont bons, où il dit verset 8, avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Il dit que vous devez être connus pour l'amour que vous manifestez envers les autres. Cet amour qui est capable de couvrir même les péchés des autres. Alors il dit, saluez-vous par un saint baiser. Quelqu'un a dit que quand on serre quelqu'un véritablement dans ses bras avec amour, il dit, c'est plus difficile de se mettre l'instant d'après en colère contre cette personne. Il dit, c'est difficile quand on a dit, je t'aime mon frère, ma soeur, tout de suite après, être en colère contre cette personne. C'est pour ça qu'il dit que l'amour couvre une multitude de péchés. C'est pour ça que l'apôtre Pierre dit, saluez-vous. Et la salutation à l'époque, c'était à l'entrée et à la sortie. Les gens se saluaient, j'ai lu dans les commentaires, qu'ils se saluaient dans l'église primitive quand ils arrivaient et quand ils se congédiaient, quand ils repartaient. D'accord. Parfois, nous n'arrivons même pas à voir tout le monde qui est là. Hein. On file vite, mais ici, Pierre dit non, il faut prendre le temps de se saluer par un saint baiser. Et donc, si les salutations que nous prononçons sont en désaccord avec les sentiments que nous avons, eh bien, ce n'est pas le véritable baiser dont parle ici. Il parle d'un saint baiser. Ce n'est pas le baiser en lui-même qui est quelque chose, c'est le fait qu'il est saint. C'est ça qui est quelque chose, qu'il est pur, qu'il dit ce que le geste est censé communiquer. C'est ça qu'il faut rechercher. Il ne faut pas rechercher simplement le fait de se dire bonjour, se tenir la main, s'embrasser, mais rechercher, dit Pierre ici, plutôt d'avoir des sentiments qui sont des sentiments de véritable amour les uns envers les autres. À tel point que le geste voudra dire quelque chose, à tel point que les paroles voudront dire aussi quelque chose. Et puis, je termine en disant ceci. Pierre dit dans le... Juste avant, peut-être dans 2 Pierre, hein, ça me vient à l'esprit, dans 2 Pierre, juste à côté, la deuxième épître de Pierre, il dit, sa divine puissance... Verset 3, nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Verset 5, à cause de cela même, et c'est ça que Pierre donne comme exhortation ici, il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Vous dites que vous avez la foi en Christ, eh bien faites tous vos efforts pour joindre à cela la vertu, à la vertu, la connaissance de Dieu, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, et à l'amitié fraternelle, l'amour. Et l'amour vient boucler la chose, quoi. La foi se manifeste véritablement par l'amour que l'on a les uns pour les autres. C'est Jésus qui disait, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour, c'est-à-dire... S'ils le voient dans vos échanges, dans votre manière de vivre, ils sauront que vous êtes mes disciples. Donc que le Seigneur nous aide à mettre ces choses en pratique, à pouvoir penser avec amour véritable, prier les uns pour les autres avec amour véritable et être dans, voilà, se saluer avec un amour aussi véritable. Et puis dernier point, ici que je souligne, c'est la bénédiction, on pourrait dire. Désirer la bénédiction de Dieu sur les croyants. Pierre dit, dernier verset, que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. Désirer la bénédiction de Dieu pour tous les croyants, tous ceux qui sont avec nous, mais il dit généralement ceux qui sont en Christ. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. Et Pierre se rappelle certainement des paroles de Jésus qui disait, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne s'alarme point. Et l'Écriture parle beaucoup de cette paix que l'on a en Jésus-Christ. Mais ici, c'est un appel à la paix sur ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ. Que leur cœur soit en paix, mais que l'on soit aussi en paix les uns avec les autres. Hein. L'apôtre Paul disait dans Colossiens, « Et la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés, que cette paix-là, elle règne dans vos cœurs. Hein. » Qu'elle règne dans vos cœurs. Et on sait que la paix, c'est vraiment la bénédiction. Dans Nombre chapitre 6, regardez Nombre chapitre 6. Nombre chapitre 6. Dieu dit à Moïse, comment il veut bénir ses enfants et comment il doit formuler la bénédiction. Verset 22, chapitre 6, il dit, parle, l'Éternel parle à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dis, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz, ça c'est la bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Quand on souhaite la grâce et la paix de Dieu sur les autres, eh bien, Dieu dit, c'est ainsi que je vais mettre mon nom et que je vais bénir. C'est pas de dire, Seigneur, rends-le riche, rends-le ceci, donne-lui ce dont il a besoin, mais c'est de prier pour lui comme une prière de bénédiction pour chaque frère et sœur qui est en Christ, qu'il ait la grâce de Dieu qui repose sur lui et que la paix du Seigneur remplisse son cœur. Et quand vous lisez l'épître de Pierre, c'est pour ça qu'il commence son épître et qu'il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Les deux épîtres. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Et dans la deuxième épître, il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Sauveur. Ce n'est pas qu'une simple formule. Certainement, cette bénédiction est dans son esprit. C'est des gens qui écrivent sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et l'Esprit qui a guidé pour écrire ce qui a été écrit dans le livre des Nombres, guide aussi Pierre pour utiliser cette parole et dire « Voilà comment Dieu veut que l'on bénisse ses enfants. » Il ne veut pas qu'on les juge, il ne veut pas qu'on les malmène, il ne veut pas qu'on les bouscule. Il ne veut pas qu'on prie n'importe quoi pour eux, même s'ils sont dans le besoin, même si dans la souffrance, il ne dit pas forcément qu'il faut prier d'enlever la souffrance. Il dit qu'il faut prier que la grâce et la paix soient sur eux. Que Dieu nous aide à être ainsi, à prier, à penser la paix pour les uns et pour les autres. C'est par Sylvain qui est à mes yeux fidèle frère, que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter et vous attester que la grâce dans laquelle vous êtes attaché est la véritable grâce. L'Église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres. Vous voyez, il dit les uns vous saluent, vous aussi. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection, ayant une attitude d'amour profond les uns pour les autres. Et bénissez-vous les uns les autres, j'aurais pu dire ainsi, hein, en invoquant la paix de Dieu sur chacun d'entre vous. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. Et vous voyez ici, c'est ceux qui sont en Christ qui peuvent bénéficier de la paix de Christ. Et donc, si ce matin vous êtes dans cette salle et que vous n'êtes pas en Christ, vous ne pouvez pas jouir vraiment de cette paix. Vous ne pouvez pas connaître cet amour véritable. Cet amour véritable, il ne vient pas de nous. C'est un amour véritable qui vient de Dieu lui-même. Par l'Esprit, la Bible dit que Dieu répand son amour dans nos cœurs. Pour aimer horizontalement, il faut avoir été aimé verticalement. Et c'est l'amour que Dieu déverse sur nous que l'on réoriente aussi vers les autres. Vers les autres. Et c'est pour cela qu'il faut être en Christ, pour que ces choses puissent avoir toute leur réalité. C'est en Christ que l'on est béni, c'est en Christ que l'on aime, et c'est en Christ que l'on peut connaître véritablement la vraie paix. La paix que Dieu donne, mais la paix avec Dieu aussi, qui fait qu'on pourra tenir quand il reviendra, parce qu'on aura mis notre confiance en Jésus-Christ. Donc si vous ne le connaissez pas aujourd'hui, c'est le jour du salut. Vous pouvez venir à Christ dans la foi et dans la repentance. Prions. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, pour ta parole, pour ces quelques mots de conclusion de cette lettre si dense. Je te prie que tu nous aides à reprendre toutes ces choses, à les relire, et par ton esprit, que tu nous aides à les mettre en pratique. Nous reconnaissons combien nous sommes loin de toutes ces choses-là que tu nous demandes. Nous voudrions les faire, mais nous sommes impuissants par nous-mêmes. Nous te demandons que tu nous guides par ton esprit. Oui, Seigneur, que tu nous donnes d'être soumis à ta parole, que tu nous donnes de vouloir toujours accomplir ce que ta parole nous commande d'accomplir. Et je te prie pour aussi ceux qui ne te connaissent pas ici dans cette salle, pour qu'ils se plient à ce que ta parole commande, à venir à toi dans la foi et dans la repentance. C'est en Christ, Seigneur, que nous pouvons avoir la paix. C'est en lui que nous avons le salut. C'est en lui, c'est lui-même qui est la grâce de Dieu manifestée, source de salut pour tous les hommes. C'est en lui, Seigneur, que nous pouvons résister au diable. C'est en lui que nous pouvons nous aimer les uns les autres. C'est en lui que nous pouvons apprendre à supporter les épreuves, les difficultés que nous pouvons traverser dans notre vie. C'est en lui que nous pouvons nous soumettre aux autorités. C'est en lui et par lui que nous pouvons avoir une bonne conscience, une bonne conduite au milieu des païens. C'est en lui et par lui que nous pouvons exercer l'hospitalité. Seigneur, nous avons besoin de ton aide pour toutes ces choses. Et nous te prions que tu fasses ton œuvre dans notre vie, par ta parole et par l'action de ton Esprit Saint, et pour la gloire de ton nom. Amen.